Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la question israélo-palestinienne. Cette semaine, mercredi 11 novembre, marquait le 11e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Une journée de plus marquée par des heurts entre Palestiniens et forces israéliennes. Les violences en Israël, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem ont fait depuis le 1er octobre plusieurs dizaines de morts côté palestinien, 8 fois plus que du côté israélien. Et la question est sur toutes les lèvres de savoir si ce n'est pas une nouvelle intifada qui aurait bel et bien commencé, une nouvelle logique de violence alors que le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens est totalement bloqué, qu'il ne se passe rien à l'échelle internationale. Benjamin Netanyahou en visite aux États-Unis cette semaine pour tenter de réparer les dégâts causés aux États-Unis par sa campagne contre l'accord nucléaire avec l'Iran a estimé que le statu quo actuel allait encore durer. Quelle lecture faire de ce qui se passe aujourd'hui? La violence peut-elle être stoppée dans cette région particulière secoué 20 ans après la disparition de Yitzhak Rabin, assassiné parce qu'il était en train de mettre en œuvre la paix. C'est ce que nous allons voir avec nos invités par téléphone depuis Tel Aviv. Shlomo Sand, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv, auteur de nombreux ouvrages dont « Comment j'ai cessé d'être juif » et le dernier « Crépuscule de l'histoire » qui vient de paraître chez Flammarion. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du série Sciences Po et co-directeur de Afrique du Nord et Moyen-Orient, paru à la Documentation française. Bonjour.
Bonjour.
Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle? Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui? La guerre des couteaux? Est-ce que l'on assiste à une nouvelle forme d'intifada? Et pour quelles raisons précises la crise éclate-t-elle maintenant, Shlomo Sand?
Et je ne sais pas si on peut appliquer déjà le mot intifada, ça dépend. Vous savez, le premier intifada n'était pas pareil comme le deuxième intifada, et je suis sûr que le troisième, s'il y a une révolte, je ne sais pas si ça va prendre les mesures de violence comme les deux autres, et pas du tout, parce que pour le moment, ni les autorités palestiniennes, ni le Hamas ne soutiennent pas directement cette révolte. C'est une révolte plutôt spontanée et la plus importante, que c'est une révolte de jeunesse. C'est-à-dire une jeunesse qui n'a pas eu de conscience politique dans les deuxième intifada et ni les premières intifada. Donc c'est une guerre d'armes froides, comme on dit, de couteaux, très très spontanée, pas organisée. Et c'est une raison qu'Israël, bouche bée, ne sait pas comment réagir. Et voilà donc une situation nouvelle qu'on n'a pas connue auparavant, qui vient directement de cette situation désespérée d'une population qui vit déjà presque un demi-siècle sous une occupation israélienne. Et peut-être la plus importante, que c'est une grande partie de cette révolte de jeunesse vient des Palestiniens qui habitent à Jérusalem, c'est-à-dire dans la capitale israélienne. Vous savez qu'il y a un tiers de la population de notre capitale qui est peuplée par des Palestiniens qui n'ont pas vraiment une citoyenneté, même que cette région était annexée par Israël. C'est-à-dire qu'ils ont un statut très spécial des habitants, pas des citoyens. Et la révolte commence surtout chez eux, ceux qui habitent à Jérusalem. Donc, si vous voulez, l'origine est le fait que nous sommes toujours dans une situation de nier des droits politiques, civiques, etc., d'une population entière pendant un demi-siècle. On peut poser toujours la question à l'envers, pourquoi il n'y a pas tout le temps de révolte? Et peut-être, sauf la jeunesse, tout le monde est fatigué de ce conflit.
Je reprends la main pour vous la passer, Alain Diekhoff. Situation désespérée, des jeunes, exaspération qui est à son comble. En tout cas, une situation nouvelle avec la spontanéité de cette révolte.
Je n'ai rien à retirer, rien à ajouter à ce que mon collègue Shlomo Sand a dit. C'est vrai qu'il est assez difficile de dire si on rentre vraiment dans un cycle un peu plus long qui pourrait vraiment faire qualifier ce qui se passe depuis le début du mois d'octobre comme une intifada au long cours, comme les deux qui l'ont précédé. Ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, en effet, les manifestations de violence prennent une forme différente, beaucoup plus anarchique en ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de mouvement derrière. C'est des actes éclatés. gâtés ici et là, souvent commis par des gens très jeunes, aussi par un certain nombre de jeunes filles d'ailleurs. Ça c'est sans doute par contre un petit peu une nouveauté au niveau sociologique. Et en effet, tout au moins au départ, qui s'est cristallisé autour de la question de Jérusalem. Mmh. Et bien évidemment, quand on dit Jérusalem, c'est encore une fois à l'intérieur même de Jérusalem, la question du mont du Temple, de l'esplanade des mosquées. Et ça renvoie évidemment à quelque chose de bien plus ancien. Hein. Les manifestations, disons, de violence qui ont pu se cristalliser autour de la question de qui doit contrôler cet espace sacré ne sont pas nouvelles, évidemment. Et la deuxième intifada, il faut le rappeler, avait démarré aussi autour de cela, après la visite de Ariel Sharon sur le mont du Temple. Et c'est en fait ça qui sert un peu de point de cristallisation, mais évidemment pour et met en mouvement des gens bien au-delà de la question évidemment du contrôle du mont du Temple. C'est toute la question bien évidemment d'un processus de paix qui n'existe plus depuis bien longtemps. Aussi pour les Palestiniens de Jérusalem, la discrimination dont ils sont l'objet, puisque c'est vrai que ils sont résidents israéliens, non pas citoyens, mais résidents. Mais tout le monde sait, il suffit de regarder les budgets pour voir que ils sont beaucoup moins bien lotis que les résidents juifs de Jérusalem. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nourrit plus spécifiquement la frustration des Palestiniens à Jérusalem-Est. Donc il y a tout un ensemble, un cocktail évidemment extrêmement détonnant et qui a éclaté il y a quelques semaines, mais quand même dans un climat, on le voit, de dégradation de la situation de peu à peu près quand même une année depuis l'été 2014. Il y a quand même une dégradation lente de la situation qui quelque part a pourri finalement et qui s'est manifestée de façon un peu plus brutale depuis quelques semaines.
Alors dégradation depuis l'été 2014, Shlomo Sand, quelque chose de particulier?
Je crois pas, c'est-à-dire il y a des affaires, c'est-à-dire le fait que plus des Israéliens visitent le mont du Temple, etc. Mais c'était un déclencheur. C'est juste les choses qu'il a ajoutées. Mais aujourd'hui, le gouvernement israélien fait très attention de ne pas mettre de feu sur le mont du Temple, mais la révolte continue. On voit que c'est une révolte à la fois semi-religieuse, semi-nationale, mais plutôt une révolte sans projet politique. Mm. Et le plus important, c'est la prudence de Hamas et la prudence des autorités palestiniennes face à cette révolte. Ni l'un, ni l'autre ne veut pas actuellement, à mon avis, ne veut pas cette révolte, mais il ne peut pas les condamner, il ne peut pas l'arrêter, il ne veut pas peut-être. Mais ce n'est pas eux qui ont déclenché ça aujourd'hui. Ils font très très attention aussi de contrôler la spontanéité des manifestants sur les frontières de Gaza qui essayent de rejoindre cette révolte en sud du pays d'Israël.
Alain Diakhoff, ce qu'on entend, c'est un jeu perpétuel de provocation. Hein, on est toujours sur le même registre. Ce qui se passe, c'est un signal d'alarme. Shlomo Sand le disait, vous le disiez, ni le Hamas ni l'autorité palestinienne ne soutiennent le mouvement. Il n'empêche qu'il va falloir qu'il y ait une réaction, qu'il se passe quelque chose. Alors, côté gouvernement israélien, côté palestinien, sonnette d'alarme qui est tirée.
Simplement, quand vous voulez dire qu'il se passe quelque chose, vous voulez dire politiquement?
Oui.
Je dirais pas nécessairement, c'est bien ça le drame. C'est vrai qu'objectivement, on devrait attendre une réaction. Mais en même temps, je dirais que tous les acteurs sont un peu coincés. C'est-à-dire que le Hamas, a quand même politiquement, je dirais, même s'il a résisté, subi un gros coup de semonce l'année dernière après la longue offensive militaire israélienne à Gaza. Donc il a plutôt intérêt, en effet, à contrôler un peu le jeu. Bon, de temps en temps, permettre à des jeunes de provoquer l'armée, mais pas trop quand même. L'armée israélienne, j'entends, mais pas trop quand même, parce qu'il veut quand même garder ce qu'il a pour le moment, ce qui peut paraître peu, mais qui pour lui est quand même beaucoup, c'est-à-dire ces 360 km² de la bande de Gaza. L'autorité palestinienne est quand même dans la même situation en réalité, parce que on a un Mahmoud Abbas vieillissant, 80 ans maintenant, un leader affaibli, quand même pas mal de corruption dans l'autorité palestinienne, avec une crise à l'intérieur de l'Organisation de Libération de la Palestine. Je rappelle simplement pour mémoire que le secrétaire général de l'OLP a été débarqué par Abbas début juillet. Donc tout ça n'est pas très bon. bon, on ne sait pas ce que sera l'avenir de l'autorité palestinienne politiquement. Elle a aussi intérêt à plutôt garder ce qu'elle a, même si ça peut paraître là aussi pas énormément de choses, mais bon, quand même, une autonomie, une certaine prospérité aussi. Bon, à Ramallah, en tous les cas, ça paraît assez certain quand on y va. Donc, il a aussi intérêt à contrôler le jeu dans une certaine mesure, mais... Quel projet politique derrière tout ça? À mon avis, aucun. C'est-à-dire que je ne vois pas les propositions qui pourraient être mises sur la table aujourd'hui par les deux parties palestiniennes que je viens évoquer. Du côté israélien, c'est en réalité la même chose aussi, puisque Benjamin Netanyahou, même si ensuite il est revenu sur ses propos, je pense quand même ce qu'il avait dit lors de la campagne électorale était quand même vraiment le fond de sa pensée, c'est que il ne croyait plus à la solution des deux États et qu'il ne fera évidemment aucun effort pour le faire. Et bien évidemment, il suffit de regarder le résultat.
Je ne crois pas qu'il ne croit pas. Je ne crois pas qu'il ne croit pas. Il ne veut pas.
Oui, il ne veut pas non plus.
Vous savez, c'est ça qui est important. La question rationnelle doit être... Comment Israël, qui veut rester, entre guillemets, un État juif, parce que je ne crois pas vraiment que c'est un État juif, peut rêver d'annexer tous ces territoires et continuer de dominer après un demi-siècle ces territoires? La question est de rationalité de cette politique israélienne. Et une chose importante, je crois que Bibi Netanyahu ne croit pas à un moment que deux États peuvent exister. Parce qu'il y a une classe politique israélienne, c'est très important à comprendre. Il ne peut pas se libérer des territoires occupés, il ne peut pas se libérer de Hebron, de Jéricho, de Bethléem, parce que, vous savez, le mythe fondateur de cet État dit que voilà, ça c'est notre lieu d'ancienne patrie historique. Donc je ne crois pas que Bibi Netanyahu peut envisager de se retirer de Hebron. D'un côté, c'est une sorte de mythe très très importante qui pèse sur toutes les classes politiques. D'ailleurs, je me souviens, je demandais un jour à le secrétaire de Rabin, à une occasion, je lui demandais pourquoi Rabin n'a pas osé d'évacuer les colonies juives à Hebron après les assassinats de Baruch Goldstein, des gens qui ont prié dans les mosquées à Hebron. Et je demandais pourquoi il n'a pas autorisé, pourquoi il n'a pas décidé d'évacuer à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là, les populations israéliennes étaient assez près d'évacuer une colonie juive de Hebron. Je crois que l'ambiance était favorable. Mais Yitzhak Rabin n'a pas osé faire ça. Même s'il a pensé qu'il faut chercher certains compromis, il n'a pas osé. Cette minute très rare dans l'histoire israélienne d'évacuer une colonie israélienne. Donc je ne crois pas que Bibi Netanyahu a perdu l'espoir à deux États, je crois jamais qu'il a pensé à deux États. La question est, à quoi il croit? La seule chose que je peux imaginer, qu'Israël attend un jour que quelque chose va arriver au Proche-Orient, qu'on pourra évacuer une partie de cette population. Parce que vivre dans un état d'apartheid, c'est un demi-siècle qu'on vit une sorte d'apartheid, pas en Israël, dans les territoires occupés. Mais je n'arrive pas à déchiffrer ça, je n'arrive pas à comprendre quel but Bibi Netanyahu ou des autres dans les classes politiques supérieures israéliennes pu imaginer sur cette situation face au Proche-Orient qui est tellement instable et tellement dangereux.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors bien sûr, on parlera de cette question de l'environnement régional. Évidemment, je le disais en introduction, cette semaine à Washington, Benjamin Netanyahou a estimé que le statu quo actuel allait encore durer. Donc finalement, voilà. Que rien ne bouge.
Absolument. Non, je pense que c'est en effet, c'est ça.
Un Diakov.
Je ne sais pas si on peut parler de stratégie, mais en tous les cas, c'est sa ligne directrice. Ne rien faire, en réalité. Jouer un certain immobilisme diplomatique, ça c'est sûr. Évidemment, pas un immobilisme sur le terrain. Il suffit de regarder les chiffres et leur évolution année après année. La population... juive croit en Cisjordanie, les implantations grossissent. Alors évidemment, certaines plus que d'autres, celles qui sont plus isolées un peu moins, parce que l'environnement est beaucoup moins propice à l'arrivée de citoyens israéliens. Mais par contre, les Adoumim, non loin de Jérusalem, ou Ariel, sont des villes qui croissent, qui continuent à croître, et toujours dans une logique très évidente où l'État, par tout un tas d'incitations fiscales, entre autres, incite justement ses propres citoyens à s'y installer. Tout cela va continuer. Donc sur le terrain, évidemment, les choses évoluent quand même. C'est ça qui explique aussi le ressentiment palestinien.
Elles évoluent dans le mauvais sens pour les Palestiniens, c'est
ça. Ça, c'est certain. Ils voient de leurs propres yeux que, dans les villes ou les villages dans lesquels ils sont, que autour, les colonies continuent à s'accroître, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc évidemment, là, il y a un immobilisme diplomatique, mais il y a pas un immobilisme sur le terrain. Donc c'est un statu quo diplomatique, mais pas du tout un statu quo sur le terrain. Ça, on est très loin de ça même.
Alors Shlomo Sand, vous voulez réagir à ce que vient de dire Alain Diakov?
Non, j'ajoutais, c'est-à-dire on compte aujourd'hui 600 000 Israéliens qui habitent dans les territoires occupés. Ça veut dire à peu près 10% de la population en Israël est déjà sur l'autre côté de l'ancienne frontière de 67. Donc il y a plus en plus de gens dans la population israélienne et chez les Palestiniens aussi, qui commencent à réfléchir qu'une séparation et une constitution de deux États n'est pas possible. Moi, politiquement, je soutiens les solutions de deux États, un État israélien et un État palestinien. Mais j'admets que les derniers mois, je ne sais pas quoi dire, parce que plus en plus, son point de vue technique, 600 000 habitants israéliens, juifs et israéliens, dans les territoires occupés, fait qu'envisager un État palestinien indépendant devient moins ou moins réaliste, et ça complique pas seulement la politique, ça complique tout l'imaginaire de futur des Israéliens et des Palestiniens, parce qu'envisager un État, c'est-à-dire binational, comme on dit, moi, je ne crois pas, parce que je crois que les sociétés israéliennes, c'est une des sociétés les plus, racistes dans le monde des démocraties occidentales. Donc, je ne crois pas qu'un État binational peut exister. Et je ne sais pas quoi on peut proposer comme un plan politique pour sortir de cette crise. J'ai perdu l'espoir, si vous voulez, que quelque chose va changer des dedans, c'est-à-dire qui va surgir de la société israélienne elle-même. J'ai perdu l'espoir. Donc, pour moi, il y a deux questions. Ou la terreur qui va s'aggraver de la part des Palestiniens, on peut le dire, la résistance militaire des Palestiniens, ou une pression internationale. C'est-à-dire que le monde va dire, c'est un demi-siècle, on ne peut pas continuer. Et je voulais dire quelque chose à propos des questions que vous avez posées, mais je crois que c'est la deuxième partie de notre émission sur l'État sunnite et Israël, etc. Donc je laisse ça à côté pour le moment, mais je vais dire une chose. La solution des deux États, la possibilité de séparer, un point de vue réaliste et pragmatique, devient moins ou moins possible aujourd'hui au Proche-Orient.
D'autant que pour deux États, Alain Diakov, il faut de la confiance. Et la confiance entre Israéliens et Palestiniens, il n'y en a pas.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que c'est évidemment un des problèmes majeurs, c'est que si on veut faire des négociations dignes de ce nom, il faut qu'il y ait un minimum de confiance, de respect. Et là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et puis évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que du côté palestinien, on a depuis maintenant 8 années déjà, deux gouvernements, deux autorités. En réalité, il y a l'autorité palestinienne reconnue par la communauté internationale et malgré tout encore par Israël, en tous les cas légalement. Et de l'autre côté, le Hamas, qui sont évidemment eux-mêmes dans une situation de conflit politique intense. Donc, je dirais que le tableau, de ce point de vue-là, ne prête absolument pas à l'optimisme et ne permet pas d'envisager une avancée diplomatique, quelle qu'elle soit. Si on rajoute à ça l'environnement international, qui, à mon avis, n'est absolument pas propice non plus pour une avancée dans ce sens-là, on a un tableau, en effet, très, très noir.
Alors, pour terminer, on a une minute. La première partie de cette émission sur les questions de politique intérieure israélienne. Il est vrai que ce que l'on voit, c'est un énorme déséquilibre entre un Benjamin Netanyahou extrêmement fort et de l'autre côté, côté palestinien, un Mahmoud Abbas vieillissant, Alain Diakov le disait, et puis surtout des Palestiniens divisés, Shlomo Sand, très rapidement.
Oui, c'est très sombre, le visage et l'image de la politique de deux côtés, je suis complètement d'accord. Les alternatives des partis travaillistes, vraiment très faibles, ce n'est pas vraiment une alternative. La société israélienne ne voit pas dans une autre partie une alternative les choses qui se passent. Une chose importante à ajouter, que cette petite révolte, entre guillemets, des couteaux, a fait qu'il y a plus des Israéliens qui disent qu'il n'y a pas aucun avenir en gardant les territoires occupés. Chaque vague de terreur fait qu'il y a moins des Israéliens qui veulent annexer les territoires occupés. Je ne veux pas tirer des conclusions, mais chaque fois qu'il y a des vagues d'actes de terreur, il y a plus des Israéliens qui disent qu'il n'y a pas un avenir en gardant les territoires occupés sur le contrôle israélien.
On terminera la première partie de cette émission sur cette intervention de Shlomo Sand. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Alain Diakov et Shlomo Sand dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la question israélo-palestinienne 20 ans après la disparition de Yitzhak Rabin, assassiné parce qu'il était en train de mettre en œuvre la paix. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Tel Aviv, Shlomo Sand, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv, auteur de nombreux ouvrages dont « Comment j'ai cessé d'être juif » et « Le dernier crépuscule de l'histoire » paru chez Flammarion, et Alain Diakov, directeur de recherche au CNRS, directeur du série Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dont l'un pour lequel il a été co-directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, paru à la Documentation française. Shlomo Sand, vous évoquiez dans la première partie de l'émission Yitzhak Rabin. C'est vrai que cette année 2015 marque le 20e anniversaire de son assassinat par un extrémiste juif. La paix depuis n'est évidemment pas présente. Dans la première partie de l'émission, vous évoquiez l'idée que c'était tout de même un homme qui avait manqué de courage, en particulier celui d'évacuer des colonies israéliennes. Est-ce que on a eu tendance à mythifier Yitzhak Rabin?
Oui, sauf que je n'aurais pas dit qu'il a manqué de courage parce qu'il était un vrai soldat. Et le problème n'est pas le courage. Je crois que c'est une sorte d'attrape-nigaud de beaucoup de cadres politiques israéliens. D'un côté, même ceux qui savent qu'il n'y a pas un avenir de continuer d'occuper les peuples palestiniens, de l'autre côté, pourquoi je suis à Trapnigo? Parce que dans le mythe profond fondateur d'État d'Israël, l'ancienne patrie juive, légendaire et biblique, n'était pas Netanya, Tel Aviv ou Haïfa, c'était justement Jérusalem, Hébron, Bethléem, justement une partie, cette patrie, que c'est les Palestiniens qui y habitent aujourd'hui. Et comme je mentionnais auparavant, j'ai demandé à le secrétaire personnel de Rabin un jour, Eitan Haver, pourquoi Rabin n'a pas osé, à cette minute historique rare que Baruch Goldstein a assassiné des religieux dans une mosquée, pourquoi il n'a pas décidé de faire un pas en avant et retirer les colonies juives de Hébron? Et ce n'est pas le courage, justement. Je crois que c'est être face à l'histoire qui n'a pas eu peut-être le courage, je ne sais pas quoi, de décider. Il faut faire une démarche vraiment sérieuse pour libérer Israël des territoires occupés. Ce n'était pas possible pour lui. Ce n'était pas possible après l'assassinat de Rabin. C'est très important. Il y avait encore une minute historique rare que Peres a pu faire une démarche et il n'a pas fait. Je souligne ce fait pour comprendre vraiment la situation. Il faut comprendre que nous sommes une société qui était constituée par une colonisation permanente. C'est 130 ans que nous colonisons cette terre. On est venu à la fin du 19e siècle d'Europe. Maintenant, je ne juge pas politiquement et moralement chaque étape de cette colonisation avec les mêmes critères. Pas du tout, parce que je suis pour l'existence de l'État d'Israël. Mais il faut comprendre que c'est une sorte de dynamique permanente de colonisation qui jamais n'a pas arrêté, parce qu'entre 48 et 67, il y avait aussi des colonisations intérieures, c'est-à-dire sur la terre d'État d'Israël. Le slogan de « judaïser les Galilées » ou « judaïser les Negev » était très populaire dans l'année 60 en Israël. Donc j'ai dit, il faut examiner, comprendre les dynamismes d'une société de colonisation et qui ne savent pas comment s'arrêter. Pour résumer, dire que les mythes fondateurs de cet État qui ont aidé à constituer notre État, c'est le même mythe qui peut détruire, à mon avis, l'État d'Israël actuellement. Et c'est la raison, sous ce prisme, je juge de façon positive la démarche de Rabin qui a reconnu le mouvement national palestinien, mais je ne suis pas sûr qu'il y a une force politique en Israël qui peut faire les démarches, se libérer, ou commencer à se libérer de ce mythe fondateur de notre État.
Alain Diakov.
Juste alors sur ce point qui est en effet très important, j'apporterai peut-être la nuance suivante. C'est vrai que techniquement, bien évidemment, l'arrivée de Juifs d'abord d'Europe centrale pour l'essentiel, à partir de la fin du 19e et surtout du début du 20e siècle et par la suite, et beaucoup plus tard, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée aussi de juifs dans des pays d'islam, peut quelque part s'apparenter à une colonisation. Mmh. C'est-à-dire que c'est le mouvement d'une population qui venait d'autres pays. Mais il me semble quand même que là, il y a une grande différence par rapport à des colonisations, disons, classiques. C'est d'une part que le choix de cette terre ne doit rien au hasard. Mmh. C'est que là, il y a quand même cette référence biblique qui, évidemment, est en même temps, comme Shlomo Sand l'a dit, pose des problèmes, parce que ça explique que, en effet, même des leaders de gauche aient peut-être du mal à évacuer des lieux qui sont des lieux bibliques, comme Hébron en particulier. Donc il y a cette référence biblique qui fait qu'il y a un lien, au moins symbolique, entre les Juifs qui venaient d'Europe centrale et cette terre. Et le second, c'est que il y a, évidemment, dans l'idéologie, une dimension nationale dans le sionisme. Le sionisme s'est constitué comme un nationalisme sur le modèle des nationalismes européens du 19e siècle, avec la dimension de régénérescence nationale, de construction d'une société. Donc il y a cette volonté de normalisation nationale. Et on voulait créer une culture. Et ça marchait d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est-à-dire la régénérescence de l'hébreu. Donc il y a aussi cette dimension-là qui, à mon avis, est très, très importante et qu'il faut aussi prendre en compte quand on réfléchit sur
Oui, justement, je ne nie pas les liens mythiques, bibliques que beaucoup de juifs ont eu envers cette terre sainte, ancienne. Mais vous devez savoir que la religion juive a interdit aux juifs d'aller émigrer collectivement sur la terre sainte. C'est très important pendant 1500 ans pour les juifs de ne pas aller là-bas. Mmh. Et je voulais souligner quelque chose pour comprendre la conflictualité actuelle. Herzl, le père spirituel fondateur du sionisme, dans cet écrit qu'il a écrit à Paris, d'ailleurs, il pose les questions argentin ou palestine. C'est très marrant, parce que l'axe central du sionisme était libérer les juifs de cette oppression qu'ils ont eue, surtout l'Empire russe, c'est-à-dire libérer par une souveraineté. Et il y avait un autre axe, libérer la terre. Notre terre ancienne d'il y a 2000 ans, qui pour moi c'est complètement mythique. Maintenant, deux axes. Premier axe, c'était donner une chance à une collectivité que l'Europe a craché, a vomi, si je peux utiliser ce verbe terrible, donner une expression nationale des désirs de souveraineté. Et parallèlement, il y a le mythe de la terre. Cette terre est à nous. Et c'est très important à comprendre. Cette mythe a servi de cette colonisation. Et je dis colonisation parce que, Alain, vous savez que beaucoup de colonisateurs d'Amérique du Nord étaient des victimes de l'oppression de l'Église anglaise en Angleterre. Donc parfois, vous savez très bien que les victimes peuvent devenir bourreaux. C'est presque classique dans l'histoire. Mais les mythes de la terre. Et c'est ça qui était très important comme mythe mobilisateur pour les sionistes. Cette mythe, et je souligne ça, fait qu'on ne peut pas se libérer aujourd'hui de Hébron, de Jéricho. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la logique de Bibi Netanyahu et presque tous les cadres politiques dans le gouvernement israélien.
Oui, ça, je suis d'accord, mais je pense aussi que dans le fond, il faut la politique, de ce point de vue-là, doit aussi servir à sortir, en quelque sorte, du mythe. C'est-à-dire que le mythe, on peut dire, a eu un rôle, finalement, historiquement, c'est vrai, a permis, quelque part, le mouvement historique qui a conduit, justement, à la constitution de l'État d'Israël. Mais on peut dire qu'une fois l'État existant, justement, il faut pouvoir se sortir un petit peu du mythe pour construire du politique. Et le politique, ça veut dire aussi le compromis, y compris avec les Palestiniens.
D'accord. Mais cette mythe était commencée à affrodir avant 67. Je me souviens, comme j'étais très jeune, cette mythe de la terre d'Israël a commencé à s'affrodir. Le problème est que cette mythe chaude, aujourd'hui, toujours, est comme l'opposition rationnelle, si vous voulez, libérale ou de gauche, essaye d'arrêter, diminuer, réduire cette mythe, il n'arrive pas. Et je crois que vraiment, il n'y a pas une force politique en Israël qui puisse changer le cap. Et justement, si on peut passer sur les géopolitiques de la région,
oui, c'est ce que je voulais vous proposer.
Pas des autres intérêts du monde occidental, pour résoudre ce conflit tragique le plus long probablement dans le XXe siècle.
Alors parce que justement tout à l'heure vous évoquiez l'idée qu'en réaction donc Shlomo Sand côté palestinien on allait soit vers davantage de violence pour peut-être entrer dans une politique de la terreur ou alors voir la communauté internationale proposer quelque chose, imposer quelque chose. Évidemment les Américains, John Kerry en particulier, pour ce qui est de l'époque récente, n'est pas parvenu à grand-chose. Alain Dekoff, et la communauté internationale, que peut-elle faire? Et justement, sur le plan géopolitique, l'une des nouveautés aujourd'hui au Proche-Orient, c'est le soutien indirect des pays arabes sunnites qui considèrent aujourd'hui Israël comme leur allié face aux chiites. Est-ce que c'est un élément nouveau qui peut, d'une manière ou d'une autre, débloquer la situation, apporter quelque chose de différent, Alain Dekoff?
D'une part, je ne parlerai pas véritablement d'alliance. Hein. Il se trouve que de facto, c'est vrai que Israël se trouve aux côtés, si je puis dire, de l'Arabie Saoudite dans la même crainte, en particulier d'un Iran nucléarisé et d'un Iran qui, on le voit quand même tous les jours, est très présent dans la région par l'aide qu'elle prodigue d'une part au gouvernement irakien qui est dominé par les chiites, ensuite au Hezbollah qui est lui-même présent en Syrie en combattant aux côtés d'Assad. Donc oui, là il y a une inquiétude partagée et une hostilité très claire que Israël et l'Arabie Saoudite en particulier, mais d'autres puissances sunnites, les petits pays du Golfe, partagent. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne permet pas véritablement d'imaginer que les deux puissent, de concert, faire quelque chose, disons, dans cette situation, d'autant plus que précisément sur la Syrie, ils ne sont pas sur la même position, parce que sur la Syrie, bon, Israël, évidemment, est un peu en retrait, plus spectateur qu'acteur, regardant quand même avec une certaine inquiétude ce qui se passe à ses portes, alors que de l'autre côté, les Saoudiens et le Qatar sont clairement engagés du côté de l'opposition à Assad, soutiennent y compris des groupes djihadistes, comme Al-Nusra, qui sont quand même très proches de Al-Qaïda. Donc ça, évidemment, c'est pas tout à fait quand même ce qu'Israël souhaite. Donc je dirais, oui, il y a des choses, mais une inquiétude partagée autour de la montée en puissance de l'Iran, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, on voit assez mal ce que ça pourrait donner dans quelque chose qui pourrait ressembler davantage à une certaine entente. Et j'ai oublié, évidemment, aussi maintenant l'Égypte, qui est revenue un peu dans la course depuis que Al-Sisi est au pouvoir et qui est aussi, finalement, sur la même ligne, aussi bien avec Israël qu'avec les pays du Golfe.
Shlomo Sand.
Vous savez que comme Obama a été élu, j'espérais qu'il sera Carter. Carter qui, heureusement, a amené la paix entre Israël et l'Égypte. J'espérais que Obama sera plus courageux que Clinton, peut amener certains compromis historiques entre nous, les Israéliens, et les Palestiniens. Hélas, les lobbies pro-israéliens à Washington étaient trop lourdes pour lui. Obama comprend la situation très très bien, exactement comme Carter et Clinton. Et même qu'il a eu de bonnes intentions au début, il a très vite a perdu le pouvoir et aussi l'espoir pour régler ce conflit-là. Maintenant, il faut comprendre le fait que nous sommes alliés, les forces les plus réactionnaires au Proche-Orient, les plus terribles au Proche-Orient, je parle sur l'Arabie Saoudite. Et le fait que les Saoudis se trouvent aujourd'hui dans une situation économique très délicate, et aussi une situation de la région à cause des Yémen, etc., très délicate, fait que nous avons de bons amis. Mais pour la future existence de l'État d'Israël, je crois que c'est des mauvais amis. Si je suis très pessimiste, pas fataliste, sur le conflit israélo-palestinien, je suis plutôt très optimiste pour le développement politique prochain en Iran. J'aimerais justement ce changement démocratique libéral en Iran et j'aimerais qu'Israël sera allié avec cette force plutôt que des pays comme l'Arabie Saoudite que je crois qu'ils représentent plutôt le passé et pas le futur au Proche-Orient. Mais je ne crois pas que la solution sera soutenir les régimes monarchiques comme Jordanie, comme Saoudie et ou comme les régimes militaires en Égypte actuellement. Je ne crois pas que l'avenir d'Israël dépend de ces gens-là.
Mais tout cela veut dire aussi un changement aussi, parce que Benjamin Netanyahou, on l'a vu réagir de façon très virulente à cet accord.
Je dirais que là on est un peu dans de la prospective, oui. Parce qu'il faudrait déjà, pour qu'un scénario de cette nature se développe, que l'Iran se transforme à l'intérieur, c'est-à-dire que le régime se transforme. Parce qu'en réalité, il y a une lutte, on le sait, il est assez difficile de la décrypter, mais il y a les courants conservateurs autour du guide de la révolution sont quand même très puissants, ont accès finalement le deal à Vienne le 14 juillet de cette année, parce qu'ils pensaient qu'il pouvait y avoir un intérêt de leur point de vue, en particulier à lever des sanctions, c'est très clair, mais ils ne veulent pas aller au-delà. De l'autre côté, on a des courants disons plus réformateurs, en effet, qui existent indéniablement, on en a eu plusieurs manifestations au cours des dernières années, qui voudraient profiter, aller plus loin et en effet ouvrir quelque part le régime, mais au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de dire dans quel sens on va aller. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, je dirais que oui, c'est vrai que les forces qui de facto se regroupent un petit peu, de facto même parfois de façon plus nette, parce que par exemple, entre Israël et l'Égypte, depuis le coup d'État militaire, la coopération, en particulier sécuritaire, s'est renforcée, en particulier pour essayer de contrôler ce qui se passe dans le Sinaï. Et on l'a quand même vu tout récemment qu'il y a des groupes qui sont très actifs et qui font du terrorisme à relativement grande échelle. Et il y a quand même toujours, c'est vrai, Shlomo Sand a évoqué ce pays qui est petit, mais qui est très important pour Israël, qui est la Jordanie, et qui, contre vents et marées, finalement, tient quand même assez bien le coup. Et ça, c'est juste un petit coup de chapeau de ma part, en tous les cas, si je puis dire, à la Jordanie, parce que, dans le fond, ce petit pays tampon, qui n'a aucune ressource économique, qui a une population finalement assez limitée, qui est à 50% voire plus d'origine palestinienne, donc il y a plein d'éléments qui pourraient faire que c'est un pays très fragile, objectivement, et malgré tout, ce pays a jusqu'à présent traversé toutes les tempêtes, et il y en a eu dans la région depuis les années 1970. Et là, il y a quand même une capacité de résilience de ce petit pays qui est quand même assez remarquable dans un contexte régional qui était terriblement troublé et qui continue à l'être.
Alors, coup de chapeau à la Jordanie. Moi, je me permets non pas de défendre Obama, mais peut-être resituer les choses dans leur contexte. Vous disiez tout à l'heure, Shlomo Sand, qu'il avait manqué de courage. Il se trouve aussi qu'il avait un congrès à majorité républicaine et que les choses étaient donc extrêmement compliquées. Alors, pour ce qui est de l'action de la communauté internationale, juste un petit élément, mais qui fait partie de l'actualité de cette semaine, avec l'Union européenne qui a décidé d'étiqueter les produits importés d'Israël, particulièrement ceux des colonies israéliennes. C'est un épiphénomène selon vous, Shlomo Sand, ou ça marque tout de même sur le plan symbolique quelque chose d'important ?
Sur le plan symbolique et pas économique pour le moment, très importante la réaction affolée de Bibi Netanyahu et je vis entre des gens qui regardent ça et ils imaginent que c'est beaucoup plus grave que c'est la réalité. D'ailleurs, je crois que la décision est positive dans le sens qu'il sépare Israël des territoires occupés. C'est-à-dire, ce n'est pas un boycott même. C'est-à-dire, il faut signaler les produits qui viennent et comme Israël n'a pas annexé juridiquement les territoires occupés, je ne comprends pas pourquoi Israël proteste contre ça. Parce que ce n'est pas justement des usines qui sont en Israël. Maintenant, au point de vue psychologique et symbolique, comme vous avez dit, c'est très très important. Parce que ça ne laisse pas normaliser et éterniser l'occupation.
Alain Diakov.
Oui, non, je pense qu'en effet, il me semble, ce qui est assez curieux autour de cet épisode de l'étiquetage des produits venant de Cisjordanie et de Jérusalem d'ailleurs aussi, c'est d'un côté la surréaction israélienne, qui est en effet très forte, très violente, en parlant carrément de mesures anti-juives, et de l'autre côté, la sous-estimation du côté bruxellois, qui dit, non, finalement, ça n'est absolument pas politique, c'est purement technique. Là aussi, il y a une hypocrisie, parce qu'il y a quand même une dimension politique. On ne peut pas dire que c'est purement technique. Donc, ce jeu de miroir, je dirais, m'amuse assez.
Shlomo Sand, très rapidement.
Tout à fait, je suis d'accord. C'est-à-dire, les réactions européennes sont complètement hypocrites. Mais, enfin, je crois que c'est positif pour faire clair que ce n'est pas une partie d'Israël. C'est-à-dire, le fait qu'il y a là-bas des gens sans aucun droit civique, syndical, politique, et d'ailleurs les conditions des gens qui vivent dans ces usines, ce n'est pas les conditions des ouvriers israéliens, d'ailleurs qui n'est pas aussi marrant. Je crois que cet acte d'Europe, même s'il est hypocrite, et je suis tout à fait d'accord que c'est hypocrite, est positif.
Merci.
Vous savez, parfois, l'hypocrisie, c'est nous défend des vraies barbaries.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Shlomo Sand, qui était avec nous par téléphone depuis Tel Aviv. Shlomo Sand, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv et auteur de nombreux ouvrages, dont « Comment j'ai cessé d'être juif » et le dernier, « Crépuscule de l'histoire », paru chez Flammarion. Et Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du série Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages et co-directeur de « Afrique du Nord, Moyen-Orient » à la documentation française. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique fera un point sur la campagne pour les présidentielles américaines de novembre 2016, qui n'est pas sans lien avec la question israélienne. À demain.